L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Notre partenaire et invité du jour, c'est le Centre départemental d'archéologie du Fou, qui nous envoie aujourd'hui à Carhaix, Vorgium en fait, car on s'en va dans l'Antiquité romaine en Armorique. Et à l'époque, la cité en vue, c'était donc Vorgium, devenue plus tard Carhaix. Et c'était là qu'était la capitale de la tribu celte des Osismes, qui occupait un vaste territoire équivalent au Finistère actuel et à l'ouest des Côtes d'Armor. Donc, nous avons invité les Osismes. Enfin, plus exactement, Ninoc Jaouet, qui prépare sa thèse en archéologie. Alors, je vous la lis, le titre est très simple. Vivre en Armorique romaine, le cas des Osismes entre production et consommation. Ninoc était déjà venu nous raconter les amphores il y a quelque temps. On reste quand même dans la céramique puisqu'elle travaille actuellement sur la recherche d'ateliers de potiers antiques Osismes. Bonjour Ninoc.
Bonjour.
On dit, j'arrive pas à savoir, on dit Osismes ou Osismes ?
Alors ça dépend si on parle en latin ou en français. Donc en français on va dire Osismes.
D'accord, ça sera plus simple je crois. Enfin ça sonne plus simple. Alors est-ce qu'on peut dresser un portrait de ce... Alors je ne sais pas si on dit si tribu est le terme vraiment approprié, peuple celte on va dire, c'est ça
Alors à partir de l'Empire romain on va plutôt parler d'une cité. Donc c'est en latin la civitas, donc en français on va dire la cité des Osismes. Donc en fait ça reprend vraiment tout le territoire, donc comme vous l'avez présenté, du Finistère et de l'ouest des Côtes d'Armor à peu près.
Ouais, c'est pas seulement une ville quand on dit cité en
non,
fait.
Non, voilà, c'est la ville, donc le chef-lieu, donc Vorgium, donc, qui est à Carhaix. Donc la cité, c'est vraiment tout le territoire. Donc dans l'Empire romain, il y a plusieurs provinces qui sont divisées en plusieurs cités. Et après, voilà.
Et bon, il y avait quand même une logique à tout ça, c'est qu'avant la conquête romaine, c'était bel et bien une entité, on va dire, homogène quand même, les Osismes. Enfin, c'était des gens qui se reconnaissaient comme appartenant à la même collectivité, quoi.
Enfin, oui, plus ou moins. Alors là, je ne pourrais pas vous dire exactement comment ils se reconnaissaient, mais oui, on parle du peuple Osismes, comme on parle du peuple Vénète, donc qui va être Morbihan plutôt maintenant. Enfin, voilà.
Et il y avait les coriosolites au nord, c'est ça ?
Coriosolites, oui, qui prennent les Côtes d'Armor, la partie est des Côtes d'Armor, et les Riedones qui prennent les Villers-Vilaines, les Namnettes qui prennent en gros la Loire Atlantique. Et après,
et puis plein
ça continue
encore,
dans
voilà.
Tout le reste de la Gaule.
C'est ça. Voilà. Ce qu'on appelait autrefois les Gaulois, qu'on n'appelle plus les Gaulois, paraît-il.
Oh, ouais, c'est toujours un peu compliqué. Après, c'est des histoires de recherche. Est-ce que les Gaulois s'appelaient vraiment les Gaulois ? Enfin, c'est tout plein de questions qui compliquées à répondre peut-être sur le temps de cette interview.
D'accord. Alors, les Osismes, en tout cas, ils se sont romanisés comme tous les autres à la conquête romaine. Donc, en fait, votre champ de recherche, ça va de moins 50, en gros, à 400 et quelques, c'est ça, non ?
Oui, c'est à peu près ça. On considère que ouais, l'Antiquité en Bretagne, en Armorique, ça commence en gros à la... plutôt moins 27, on va dire, c'est en gros au règne de Auguste. Donc, c'est après Jules César, c'est... Auguste, ce qu'il y a avant Auguste, c'est la transition entre l'âge du fer et l'Antiquité. Donc, vraiment, ma période de recherche est de Auguste, donc de moins 27 en gros, jusqu'à la fin de l'Empire romain, donc ça va jusqu'au 4e. Après, c'est la fin est un peu plus floue, mais c'est ça.
Et donc, ces Osismes, ils étaient. Donc, certes, ils avaient une capitale, donc Vorgium, mais sinon, c'était un peuple, j'imagine, assez rural.
Alors, après, donc, on a la cité. Donc des Osismes, et qui va se diviser en différents pagis. Donc les pagis, en gros, c'est un terme latin qui désigne les sortes de territoires des agglomérations secondaires. Donc là, c'est encore une fois, on a très peu de sources pour la Bretagne, pour l'Armorique, sur où étaient exactement les pagis. On suppose qu'il y a un pagis au niveau de Carilion en Plounévanterre, qui en fait était une agglomération assez importante, une agglomération secondaire toutefois, mais toujours assez importante. Donc Vorgium, ça s'appelait comme ça. Après, on imagine un autre pagis au niveau de Landerneau, un autre au niveau de Douarnenez, où on a les productions de garum, la sauce Gnocchmann de l'Antiquité.
Il y a toujours d'ailleurs les cuves à garum qu'on peut voir au Sentier des Plomards.
Exactement, les grandes cuves à garum, c'est assez impressionnant, ça vaut le coup d'aller voir.
C'est un condiment le garum, hein. C'est un peu comme le Gnocchmann, c'est ça hein.
Oui, c'est ouais. Ça, oui. Bon. C'est à base de fermentation de poisson. s'avère délicieux.
Ouais, c'était sûrement.
Et voilà, après, on a aussi un autre pays au niveau de Quimper, avec le port antique de Vauquemaria, qui se situe vraiment en fait au niveau du quartier de Vauquemaria, à Quimper. Voilà. Donc on a plein de petits pays, on ne les connaît pas tous, on essaie justement d'apprendre à connaître un peu mieux ce peuple osisme.
Et on déduit leur existence à partir de quoi ? Des voies romaines ou c'est ça ? Enfin, ou de ce qu'on trouve aussi, j'imagine, sur place. Mais...
Le réseau viaire est assez intéressant. Ouais. Donc les routes, on va remarquer qu'il va y avoir plein de routes qui vont se diriger à un endroit. Donc on remarque ça, notamment à Kerivien en Plounéventaire. C'est vraiment en pleine campagne. C'est pas loin de Plounéventaire, pas loin de l'Esnevin, tout ça. Donc c'est vraiment tout perdu. Et en fait, on a plein de voies romaines qui se dirigent à cet endroit. Et il y a des fouilles qui ont été menées, je ne sais plus si c'est dans les années 60 ou 70, qui ont révélé du coup une véritable agglomération à cet endroit-là.
Ouais, alors que plus maintenant, ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus rien, alors qu'à Carré, enfin à Vorgheim, il y a toujours Carré en tout cas.
Voilà, et... sous Carré, il y a Vorgheim.
C'est ça. Et pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à la céramique ? Qu'est-ce que ça révèle la céramique en fait ?
Alors, moi, je suis partie à la base des amphores. Donc, les amphores, moi, je trouve que c'est une céramique, enfin, un type de céramique particulièrement intéressant parce que c'est des récipients de transport. Donc, c'est des récipients qui nous indiquent qu'il y a eu de l'économie, qu'il y a eu des produits qui sont venus d'ailleurs et qui sont arrivés jusqu'ici. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais en fait, on se rend compte qu'avec tout type de céramique, on va avoir ce genre de réflexion. Donc, on va réfléchir à... On peut voir, en fait, en regardant la céramique, au niveau de la pâte, de l'argile qui a été utilisée, d'où vient cette céramique ? Donc, est-ce que ça vient de la Gaume du Sud ? Est-ce que c'est local ? Est-ce que ça a été importé d'Italie, etc. ? Donc, ça va déjà nous permettre de réfléchir sur les importations.
Le commerce international,
le commerce, voilà,
à l'époque déjà.
International. Eh bien oui, la mondialisation, c'était déjà là, à la période de l'Antiquité. Donc, la céramique, ouais, déjà, ça permet déjà de regarder ça. Après, d'un point de vue plus local, ça nous permet aussi de voir les sites de consommation. En gros, est-ce que c'était un endroit où on avait cuisiné ? Est-ce que c'était plutôt de la vaisselle de présentation ? Est-ce que c'était...
Du stockage,
mmh. Voilà. C'est tout type de... Ça permet déjà de comprendre le site sur lequel on est. Et encore... beaucoup plus simplement aussi, ça permet de dater un site.
Oui, voilà. Parce qu'en en fait, on reconnaît la céramique, des techniques de céramique, c'est ça qui donne une époque, en fait.
Alors, oui, c'est ça, en fait. On va regarder la forme de la céramique. En fait, on remarque qu'il y a des modes, en quelque sorte. Des modes où, à telle période, le bord de la céramique va plutôt être étiré. À telle période, ça va plutôt être un petit bourrelet. Enfin, voilà. Donc, on va commencer à... Déjà, avec la forme de la céramique, avec pouvoir dater un peu le site. Et après, on a aussi la pâte. Donc la pâte, c'est l'argile, en fait, avec toutes les petites inclusions qui sont dedans. Et l'argile va être préparée différemment aussi selon les régions, forcément, puisqu'on n'a pas les mêmes matériaux sous la main, et selon la période, puisque les techniques évoluent au fil à mesure du temps.
Et puis, de toute façon, la céramique, ça se conserve plutôt bien, j'imagine.
Ça va. En Bretagne, c'est à peu près ce qui se conserve le mieux, puisqu'on a terre et assez acide, donc tout ce qui est ossement, ça disparaît. Et donc les céramiques, elles sont un peu attaquées aussi, mais c'est ce qu'on a de mieux.
Et c'est quelque chose, la céramique, qu'on produisait partout.
Oui, exactement, oui. Mmh. Sous différentes formes, du coup, mais à peu près partout. Depuis l'Antiquité, même depuis le Néolithique, en fait, depuis qu'on a commencé à se sédentariser un peu.
Oui, c'est ça. Vous êtes antiquisante, comme on dit, c'est ça. Mais
c'est ça.
Finalement, le Néolithique, il y avait aussi les céramiques. Voilà,
voilà, c'est pas du tout la même manière de produire les céramiques, par contre. C'est un autre monde.
Voilà, on arrive à la production de cette céramique. Alors, les osismes, qu'est-ce qu'ils avaient déjà comme mode, enfin, comme style de céramique ? Qu'est-ce qu'ils produisaient ? Voilà.
Alors, les osismes, déjà, ils ont une particularité. Enfin, toute la Bretagne, presque, ils ne produisent pas d'amphores.
Oh, bon,
c'est
alors.
Terrible.
Mais ça veut dire qu'ils ne font pas de commerce, alors.
Si, ils doivent faire du commerce, mais sûrement peut-être avec d'autres types de céramiques ou avec d'autres types de récipients. Ça peut être des tonneaux, des outres, etc. Donc, voilà. Donc déjà, ils ne produisent pas d'amphores. Donc, qu'est-ce qu'ils vont produire ? Ils vont produire des vases. Donc, ça peut être souvent de la céramique, on appelle ça de la commune sombre. En fait, c'est de la céramique culinaire ou voilà qui va servir vraiment à préparer.
Les marmites.
C'est ça, les marmites, c'est de la céramique domestique en gros.
D'accord. Okay.
Donc, on va avoir ça. On va avoir après tout ce qui est donc la commune claire de votre côté. C'est tout ce qui va être des pichets, donc là pour le coup c'est avec une argile claire quoi, plus claire.
Ah ouais, d'accord.
On va avoir beaucoup de ce genre de céramique. Voilà, des pichets, des cruches, des pots, des vases de stockage, des mortiers aussi, donc pour préparer les sauces. C'est une sorte de gros saladier avec un peu de grain à l'intérieur. Et comme ça, on va pouvoir broyer la sauce à l'intérieur avant de la servir.
Alors, c'est de la vaisselle, mais est-ce que, par exemple, ils produisaient des tuiles ou autres matériaux en céramique également ?
Oui, bien sûr, oui. Donc, il fallait bien couvrir les toits des maisons.
Donc, mais ils auraient pu les couvrir avec des bardeaux en bois ou je ne sais quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on a la preuve que les villas, pour l'instant, en Bretagne, la plupart des villas qu'on connaît sont couvertes de tuiles. Donc, on appelle ça des tégulas.
À la romaine, quoi.
À la romaine, c'est ça, des tuiles à rebord. Et après, même pour tout ce qui est hypocauste, donc pour le chauffage au sol, on va utiliser des pivettes.
Pour les thermes ?
Ouais, mais ça, c'est ça. Donc, les thermes ou même les salons des riches.
Ouais, c'est pour faire les petits piliers, c'est ça, sur lesquels on va mettre le plancher.
Et... Exactement.
Donc ça, c'est en céramique aussi et c'est produit sur place, localement.
Oui, a priori, ce genre de céramique, c'est produit localement.
Et donc, alors vous cherchez, donc, dans le cadre de votre thèse, vous cherchez des ateliers, c'est ça ?
C'est ça.
Vous en avez trouvé déjà ou... enfin, on sait que ça existe, des ateliers, quoi. Oui.
Bah, on sait que ça existe, puisque la céramique, elle est produite localement. D'ailleurs, on remarque au niveau de la production, pas forcément des tégulas, etc., mais plus de la céramique des vases, on remarque que la production osisme est vraiment particulière. On n'a pas d'autres... on a vraiment ce type de céramique, on ne le trouve que dans le territoire osisme.
Spécialité locale.
Voilà, c'est ça. Donc un céramologue qui ne connaît pas le territoire est complètement perdu la première fois qu'il voit ça. Donc on sait qu'il y a une production locale. On connaît, on a des preuves de céramique. Par contre, on ne connaît pas les sites de production, on ne connaît pas les ateliers, que ce soit au niveau des tuiles ou des vases.
Il n'y a aucun atelier de céramique qui a été repéré.
On en a trois, en quelque sorte. On en a un pas loin de Carhaix, donc au niveau de Glomel. Donc ici, ils ont trouvé un atelier de céramique commune claire, on va dire. En gros, c'est tout ce qui va être pichet, mortier, tous ces vases un peu jolis, tournés, de la céramique tournée.
Donc à Glomel, on est bien chez les osismes.
On est bien chez les osismes, mais on n'est pas loin des Vénettes.
Bon. Et c'est un atelier. On sait que c'est un atelier.
On a quatre fours, il me semble, au moins, dont d'autres, un agriculteur du coin disait à l'époque, en 1980, qu'il y en avait quelques-uns qui avaient été détruits par une carrière un peu plus à l'ouest.
Donc plusieurs.
On sait qu'il y avait une grosse production à cet endroit-là.
D'accord. Sur quelle surface, en gros, on a fouillé
C'est vraiment... Les fouilles, à l'époque, c'était assez compliqué. On n'avait pas de législation sur comment ça se passait. Donc, le premier four a été découvert quand ils construisaient la route. Enfin, ils réaménageaient la route. Donc, ils en ont trouvé un. Donc, ils l'ont fouillé. Sauf qu'après, ils en ont trouvé un autre. Je ne sais plus pour quels travaux. Ça a été un peu étendu. C'est vraiment plein de... C'est des micro-fouilles à chaque fois. Quoi.
Ouais,
ils sont revenus, je crois, trois fois sur le site pour ces fouilles-là.
Ouais, donc, on a du mal à avoir une vue d'ensemble. Mais quand même, on pense que c'était une seule et même unité de production. Enfin, a priori. Quoi.
Oui, a priori. De toute façon, c'est juste à côté. Il y a quelques centaines de mètres entre les deux batteries de four.
Et les autres ateliers, il y en a
Alors, du coup, dans le même coin de Glomel, un petit peu plus au sud, on a Langonnette. Donc là, c'est dans le Morbihan. Mais ça reste du bon côté de la rivière, c'est-à-dire c'est dans le territoire osisme encore.
Ok, on n'est pas encore chez les Vénettes.
On n'est pas encore chez les Vénettes, mais bon. Alors, c'est les théories qu'on a, ça se trouve c'était chez les Vénettes. Mais...
Ouais, ils ne sont plus là pour nous le dire, de toute façon.
Voilà. Ouais. Donc, à Langonnette, on a un atelier. Cette fois-ci, il n'a pas été fouillé. On le connaît depuis la fin du 19e siècle. Et c'est un atelier de tuiliers. Donc on a apparemment, mais je n'ai toujours pas été voir, il faut que j'aille voir. On a apparemment des centaines de tuiles par terre. Et donc ils ont appelé l'endroit Castel en se disant qu'il y avait forcément eu un château à cet endroit-là pour qu'il y ait autant de tuiles. Et en fait, les chercheurs sont venus au 19e siècle et au début du 20e. Et c'est clairement un atelier. Il y a des tuiles qui sont déformées, qui sont surcuites, donc elles sont complètement noircies.
Les ratés
cuisson.
De production.
Voilà, c'est
quoi,
ça, les ratés de cuisson.
D'accord.
Donc ça, et ça n'a pas été fouillé encore.
Bon.
Et il y en a encore un autre en atelier, un dernier, à Pabu, au nord de Guingamp, donc dans les Côtes d'Armor cette fois. Donc là, on est en plein territoire osisme, il n'y a pas à se poser de questions.
Ah oui, ce n'est pas encore les coriosolites.
Ce n'est pas encore les coriosolites. C'est... Et du coup, ici, ils ont trouvé deux petits fours. Donc là, c'est vraiment des fours qui sont, au niveau de la construction, beaucoup plus rudimentaires que ce qu'on a vu à Glomel. Et c'est pas du tout les mêmes types de céramiques non plus. C'est des céramiques vraiment de culinaire, donc des sombres, des céramiques communes sombres. Et voilà, donc on en a pas mal ici. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus petit. Et je sais pas si on peut vraiment parler d'atelier ou si on doit plutôt parler de site de production. Bon là, après, j'épinaille un peu sur les mots. Mais voilà, donc on a ça à Pabu aussi, en sachant que Pabu a une tradition potière depuis au moins le 15e siècle, il me semble. Donc, si ça se trouve, en dessous des fours modernes, on va dire, ça se trouve, il y a des fours antiques qu'on ne connaît pas.
D'accord.
Voilà.
Et donc, vous, Ninoc Jaouet, vous cherchez les ateliers plus près de Vorgium, en fait. Parce que forcément, il y en a, d'après vous, vous pensez.
De Vorgium, oui, mais en soi, dans tout Finistère, dans tout le territoire osisme, hein, pareil, un peu dans les Côtes d'Armor aussi. L'idée même, ce serait d'essayer de voir, de trouver le site de production des conteneurs de transport de garum, des plomards.
Ah ouais.
À Plomard, on a une quantité monstrueuse de garum qui était produit, enfin d'Ornonnet de manière générale, mais les cuves de Plomard sont assez impressionnantes. Et du coup, dans quoi a été transporté ce garum?
On n'a jamais trouvé ne serait-ce que des traces d'amphores qui auraient été achetées ailleurs ou non?
Alors, des amphores qui ont été achetées ailleurs, oui, ouais. Oui, on en a, mais par contre, pas qui ont contenu du garum. Et la question, c'est est-ce que c'était transporté dans des céramiques?
C'est ça, voilà. L'hypothèse des tonneaux en bois ou...
C'est ça, ça peut être cette hypothèse-là. Ça peut aussi être des conteneurs beaucoup plus petits que des amphores, des petits vases de céramique. Donc ça, c'est la théorie qui est en cours en ce moment. Des petits vases de céramique qui transportaient des petites quantités de garum à chaque fois. Mais encore une fois, on n'a pas les sites de production de ces céramiques.
Parce que vous pensez que c'est forcément on doit produire les conteneurs localement. Enfin, ça vous paraît obligatoire quand on fait une grosse production comme ça d'un aliment?
Oui, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir les conteneurs sur place que de les faire importer. C'est même niveau coût. C'était moins cher, quoi.
C'est ça, c'est rationnel économiquement.
Faut se dire que c'était à peu près la même manière de fonctionner économiquement. Enfin, après, j'extrapole un peu que maintenant, en fait, les gens, ils rognent sur les coûts, donc on va faire produire des conteneurs à côté. Mm-hmm. Et ça fera toujours moins à payer.
Ouais, tout à fait.
Donc voilà.
Et on n'a jamais trouvé de céramique, localement, je veux dire, de céramique avec des traces de garum, ayant contenu du garum,
Pour ça, il faudrait faire des analyses de contenu sur toutes les céramiques qu'on trouve à ce niveau-là. Ce serait intéressant.
Ouais.
Non, je ne crois pas qu'on ait fait ça, en tout cas pas systématiquement. Mais peut-être, je crois pas qu'on ait fait ça sur les théories là, des petits vases à garum. Ce serait intéressant de le faire, en effet.
Bon, parce que ça, c'est quelque chose que, dans votre thèse, vous pouvez éventuellement avoir les moyens de demander une analyse comme ça.
Oui, bien sûr.
Donc c'est quoi comme analyse? Qu'est-ce qu'il faut comme spécialiste là?
Il faut une analyse physico-chimique, comme on dit. Par contre, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Donc après, on peut toujours trouver des financements via la fac, via l'État. Voilà. Après, c'est des dossiers à monter, forcément. Et surtout, il faut avoir des céramiques à analyser. Ouais. Sachant qu'il ne faut pas polluer, en quelque sorte, la céramique. Il ne faut pas mettre les doigts à l'intérieur. Enfin, c'est assez compliqué. Il faut que ce soit conservé à peu près correctement. Et dans l'idée, il faut avoir une céramique ou le fond, en tout cas, au moins le fond, c'est là où tout le résidu va rester, en fait, où le fond est bien conservé.
Donc, vous cherchez l'atelier ou les ateliers. Alors, vous cherchez en fait, alors à quel endroit ? Dans la campagne, autour de Vorgueux, enfin de la ville, comment vous choisissez déjà le site avant même la prospection pédestre dont on va parler ?
Alors, j'ai fait un peu le choix de reprendre les sources bibliographiques, les vieilles sources qu'on avait. Donc là, j'ai trouvé plein d'indices en fait, de sites. Donc, je les ai tous répertoriés dans une banque de données.
Quand vous dites vieilles sources, c'est quoi, 19e ou c'est bien avant ou...
19e. Ouais. Après, j'en ai des un peu plus récentes aussi, hein, des années 70, 80. Voilà, j'ai essayé de répertorier le maximum de sources que je pouvais avoir, des sociétés archéologiques, voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder quels étaient les sites les plus propices. Donc, on va regarder l'approvisionnement en argile, l'approvisionnement en eau, en bois, donc combustible. Donc, ça, c'est la base, en fait, si on veut avoir un atelier de potier.
Et on a de l'argile un peu partout dans le Finistère ou...
Alors, un peu partout, oui. On n'a beaucoup de gisements géologiques d'argile. Par contre, on a tout le granit qui va s'enterrer sur le haut des plateaux. Enfin, voilà,
ça se transforme en argile.
Ça peut se transformer en argile. D'accord. Bon. Partout, mais...
D'accord, très bien.
Donc, on a de l'argile. Par contre, elle n'est pas vraiment régulière. Donc, selon où on va prendre, l'argile ne va pas être aussi bonne. Voilà.
Bon, on s'en contente, on va dire.
Voilà. Après, ça se prépare, l'argile. On récupère l'argile, on fait décanter, c'est tout un procédé.
Bien sûr, oui.
Processus, pardon. Du coup, oui, pour les sources, donc j'ai ça, je regarde l'approvisionnement en matières premières. Mm-hmm. Et après, je vais regarder aussi les sites de diffusion. Parce que, donc, comment on fait pour diffuser les céramiques ? Donc, il faut une voie. Dans l'idéal, une voie, c'est quand on voit les ateliers de... Les ateliers gaulois, ils sont vraiment situés de chaque côté de la route. Oui,
bien sûr.
Donc la voie, et où est-ce qu'on peut emmener ça ? Donc ça va être à Vorgium, à Vorganium, du coup à Carignan, pour l'inventaire. Ça peut être à Quimper, après ça peut être un port. Donc à Quimper, ça peut se diffuser après avec le port. Donc voilà, on regarde tous ces trucs-là et on essaie de voir où est-ce qu'il y avait plus de possibilités.
Et alors, vous en avez repéré combien à peu près ?
Je ne sais plus. Dans ma banque de données, je pense qu'il y en avait à peu près 47 qui étaient intéressants.
Oui, c'est beaucoup. Oui.
Et j'en ai choisi 8 pour l'année 2020. Et j'en ai choisi quelques autres après pour 2021. J'ai fait un petit changement.
Donc 8 pour faire une prospection pédestre.
Voilà, parce que du coup, une fois qu'on a tout ça, comment savoir s'il y a vraiment un atelier ? Il faut se rendre sur place dans les champs.
Alors comment on fait une prospection pédestre ? Alors, n'importe qui ne peut pas faire ça. Enfin, faut avoir un œil aguerri, c'est ça en fait, quoi.
C'est ça. Alors normalement, il faut une autorisation.
Déjà.
On a une autorisation, donc on demande une autorisation du SRA, du Service Régional d'Archéologie. Donc, ils nous autorisent. Après, donc, on doit avoir l'autorisation des propriétaires, des parcelles, pour passer dedans. Mmh. Et à partir de là, on prend une équipe. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai demandé à des étudiants de venir avec moi sur le temps de leurs vacances.
Donc, des bénévoles, en
des
fait,
bénévoles,
c'est ça. Hein,
c'est ça, oui. Et donc, en fait, on va dans les champs, on se met en rang d'oignon et on regarde par terre. À partir de là, donc moi j'aurais fait un petit topo.
À combien de mètres de distance ? Distance sanitaire.
Distance sanitaire. Une prospection de base, on va se mettre à 5-6 mètres de distance, à peu près. Et après, si on a quelque chose d'intéressant qui commence à sortir, on va resserrer les rangs.
Ah ouais.
Pour essayer de repérer où est-ce que se trouve la concentration de tessons.
Alors, quelque chose d'intéressant dans votre cas, c'est quoi ? Ouais, c'est des morceaux de céramique, en fait, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Alors, moi, quand je explique du coup aux étudiants ce qu'on cherche, donc on cherche des tuiles, on cherche des céramiques, on cherche des pierres qui ont cramé, qui ont chauffé beaucoup. Donc, on regarde ça ensemble avant d'y aller, quand même. Mm-hmm. Et après, sur le terrain, on ramasse. Et ils me montrent, et là on refait un tri, comme ça ils apprennent quand même au fur et à mesure quels sont les objets qui vont nous
pertinents,
intéresser.
Pertinents, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc vous faites plusieurs passages sur la parcelle, quoi.
On se sépare tous les 5 mètres, on va dans un sens, après on fait le retour, et jusqu'à avoir fait toute la parcelle. Quoi.
Et ça dure combien de temps ? Enfin, ça dépend évidemment de la taille de la parcelle, mais bon, voilà. En gros.
Moi j'ai pris une semaine avec eux. Donc forcément, c'était la semaine de l'annonce du deuxième confinement. Donc
sinon,
le mercredi
drôle.
Soir, notre cher président nous a annoncé qu'on était confinés à partir du jeudi soir, il me semble, je ne sais plus. Enfin bref, du coup, le vendredi, on n'a pas prospecté.
Ah ouais. Vous aviez eu que 4 jours finalement.
On a eu que 4 jours.
Pour faire les 8 sites.
Pour faire, non, on n'a pas fait les 8 sites. On a... Justement, en fait, j'étais censée faire une autre campagne, une première campagne au printemps. Confinement fait que du coup, j'ai dû faire un choix. J'ai fait que 4 zones de prospection cette année.
Et pour l'instant, pas de résultats encore très probants, quoi.
Enfin... C'est mitigé. on a des traces de on a quelques ratés de cuisson à un endroit, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Donc,
faut
retourner. Il faut revenir sur place. Alors, on a fait ça en automne. Du coup, en automne, les champs sont pas forcément labourés encore. Il y a encore des parcelles avec du maïs qui restent, donc du maïs à grains, quoi. Ce qui fait qu'il y a des parcelles que j'ai pas pu prospecter à cette occasion. Et voilà, donc la visibilité, pareil, c'était assez... il m'avait plu, donc c'était... le sol était lessivé, donc on voit moins bien. Mmh. Donc, l'idéal, c'est vraiment quand le champ est fraîchement labouré. Et là, on voit vraiment bien. Donc, il faut retourner sur place.
Très bien, bon, bah, vous reviendrez, alors nous raconter quand vous aurez fait d'autres prospections. Merci, Ninoc Chaouen. Et bien sûr, on pourra réécouter cet entretien sur le site internet de Radio Évasion.